Le journal, présenté par Ilan Malcar.
Bonsoir. Les Bleus sont de retour à Paris pour goûter les délices du triomphe. Ils ont descendu l'avenue des Champs-Élysées acclamés par des centaines de milliers de personnes. Ils ont ensuite été reçus à l'Élysée. Dans l'actualité internationale, sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Finlande, à Helsinki. Le président américain s'est montré docile avec son homologue russe, notamment sur la question de l'ingérence présumée de Moscou dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Nous entendrons la correspondance de Quentin Dickinson. L'écriture inclusive pourrait-elle faire son apparition dans la Constitution espagnole? C'est en tout cas le souhait du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Et l'idée ne fait pas franchement l'unanimité dans le pays. Mathieu de Taillac nous en dira plus. Le temps des honneurs, de la gloire et du triomphe. Pour les Bleus, les 23 joueurs de l'équipe de France de football ont descendu les Champs-Élysées sur un bus à Impérial en fin d'après-midi. Des centaines de milliers de personnes avaient fait le déplacement pour acclamer les champions du monde sous les cris « On est les champions ». Une image qui rappelait évidemment celle d'il y a 20 ans, le 13 juillet 1998. Quelques 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour l'événement. Les Bleus ont ensuite, comme prévu, été reçus dans le jardin de l'Élysée. C'était en début de soirée, devant quelques 3000 personnes. Merci d'avoir apporté cette coupe, merci de nous avoir rendus fiers, merci d'avoir mouillé le maillot. Ce sont les mots du président de la République, Emmanuel Macron. On l'écoute.
Cette équipe, elle est belle parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. N'oubliez jamais d'où vous venez. Et vous venez de là. Devant vous, il y a les clubs qui vous ont formés. Des clubs de la France entière.
Après le chef de l'État, plusieurs joueurs ont pris le micro, dont Paul Pogba, qui résume ainsi cette prestigieuse Coupe du Monde.
J'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé, hey, 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 on a tout cassé, hey. Oui, pour toute la France, merci encore, merci, j'espère que vous avez vibré, merci, merci à toute la France entière, ah ouais.
Le capitaine Hugo Lloris a ensuite tendu la coupe à des jeunes pour qu'ils puissent la toucher de leurs propres mains. C'était le premier tête-à-tête officiel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cela s'est déroulé aujourd'hui en Finlande, à Helsinki. Le président américain n'a pas dit un seul mot critique envers Moscou. Sa déclaration la plus étonnante a sans doute été sur cette fameuse affaire d'ingérence russe présumée sur l'élection présidentielle américaine. Voici les mots de Donald Trump. « J'ai le président Poutine qui vient de dire que ce n'était pas la Russie. » Et je ne vois pas pourquoi cela le serait. En résumé, entre ce qu'affirment les services de renseignement américains et ce que dit le numéro 1 du Kremlin, eh bien le président américain ne choisit pas. À Helsinki, les précisions de Quentin Dickinson.
À l'issue de ce sommet, premier du genre, clairement, il y a un gagnant russe et un perdant américain. Les observateurs se posaient la question du résultat d'une confrontation entre le maître du Kremlin, qui ne néglige jamais aucun détail, et l'occupant de la Maison Blanche, fier de ne jamais lire de dossier et d'arriver dans les réunions sans les préparer. Maintenant, ce résultat, on a pu le constater. D'ailleurs, dès son arrivée, on sentait Donald Trump assez nerveux, moins tonitruant qu'à l'accoutumée. Il n'a pas fallu longtemps pour que soient évoquées les manipulations russes de l'opinion dans les pays occidentaux au moyen de très nombreuses rumeurs distillées sur les réseaux sociaux. Saisissant au bon l'initiative, Vladimir Poutine propose d'accueillir en Russie les enquêteurs américains chargés de vérifier le mode opératoire et l'identité des responsables de ces opérations clandestines. Et surprise, M. Trump se montre enthousiaste à cette perspective.
Je dois vous dire que le président Poutine s'est montré très énergique, très fort pour nier toute implication russe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert de recevoir les enquêteurs américains pour qu'ils viennent travailler avec des enquêteurs russes pour tirer au clair l'affaire des 12 inculpés. Moi, je trouve que c'est une offre incroyable.
Le plus étonnant, c'est que cette offre russe se double d'une contrepartie liée au rapport qu'aurait entretenu avec les services de renseignement de Washington le client américain de l'avocat russe Magnitsky, mort dans une prison moscovite. Cette condition est évidemment inacceptable pour les Américains, mais M. Trump n'a pas paru autrement s'en inquiéter.
Quentin Dickinson avec les moyens techniques de Nicolas Mathias et les propos de Donald Trump scandalisent jusque dans son propre camp. Pour le sénateur républicain Lindsey Graham, souvent en phase avec Donald Trump, les propos du président seront considérés par la Russie comme un signe de faiblesse. Quant au sénateur John McCain, il mâche encore moins ses mots. Pour lui, ce sommet était purement et simplement, je cite, « un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine ». Pendant ce temps, les deux meilleurs ennemis de Donald Trump, selon ses propos, sont eux aussi en sommet depuis aujourd'hui et pendant deux jours. Ce sont la Chine et l'Union européenne. C'est à Pékin que la rencontre se déroule. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, y est notamment présent. Et il cherche à se placer en médiateur entre l'Amérique et la Chine. Les précisions de Marie Viennot.
L'Union européenne aimerait bien ne pas avoir à choisir entre ses deux plus importants partenaires commerciaux, mais quand le président américain la range dans le camp de ses ennemis aux côtés de la Chine, il ne lui facilite pas la tâche. Elle a quand même refusé la main tendue de Pékin, qui souhaitait que le sommet UE-Chine qui a lieu en ce moment débouche sur une déclaration commune contre la politique commerciale de Donald Trump. L'Union européenne n'y est pas prête et on la comprend car elle partage l'essentiel des critiques américaines sur la Chine dans le commerce mondial. Aujourd'hui, le président du Conseil européen Donald Tusk a de nouveau plaidé depuis Pékin pour de nouvelles règles dans les domaines des subventions industrielles, de la propriété intellectuelle et des transferts forcés de technologies, ce qui vise directement le modèle économique chinois tant décrié par Donald Trump. Début juin, l'Union européenne a d'ailleurs porté plainte contre la Chine devant l'OMC pour les transferts de technologies. Mais le même jour, elle a aussi déposé sa plainte contre les nouveaux tarifs américains sur l'acier. Façon pour elle de dire clairement « je ne choisis aucun camp ». Alors au mieux, le sommet de deux jours qui démarre aujourd'hui pourrait se conclure par une déclaration d'intention en faveur du libre-échange. Possible aussi que rien n'en sorte. Ce fut le cas lors des deux dernières éditions de ce sommet en raison des désaccords sur la mer de Chine, désaccords que là aussi l'Union européenne partage avec les États-Unis.
Europe toujours, la France et l'Allemagne se mobilisent pour défendre la politique agricole commune. Les deux pays publient aujourd'hui une déclaration. Ils demandent à ce que le budget de la PAC soit maintenu à son niveau actuel, même après la sortie du Royaume-Uni pour la période 2021-2027. En juin dernier, la Commission européenne avait proposé une baisse de 5% de ce budget. En Syrie, les forces pro-gouvernementales progressent face aux rebelles dans le sud du pays. Aujourd'hui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime a repris dans l'ouest de Deraa 5 localités rebelles et contrôle désormais plus de 90% de cette province. Les forces pro-Bachar al-Assad ont aussi ouvert un nouveau front dans le sud en bombardant depuis hier les territoires insurgés dans la province voisine de Kouneitra, secteur sensible situé près d'Israël. Vous connaissez sans doute l'écriture inclusive qui permet de féminiser davantage le langage à l'aide de points. Eh bien, cette écriture est au cœur d'une polémique en Espagne actuellement. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez souhaite effectivement modifier la constitution espagnole pour justement la rendre plus inclusive. L'Académie royale de la langue espagnole a été chargée de préparer un rapport sur le sujet, mais la mesure ne fait franchement pas l'unanimité, Mathieu de Taillac.
Les Espagnols, los españoles, vont-ils devenir dans la Constitution los españoles et las españolas? Et faudra-t-il bientôt parler des ministros et des ministras? Le gouvernement de Pedro Sanchez, en tout cas, souhaite utiliser dans la norme fondamentale le langage inclusif pour mentionner explicitement les femmes ou bien employer un terme neutre chaque fois qu'un mot masculin est utilisé de manière générique. C'est la vice-présidente du gouvernement, qui est également ministre de l'égalité, qui l'a annoncé. Carmen Calvo considère que la rédaction de la Constitution correspond à une société d'il y a 40 ans et qu'il faut, dit-elle, un texte qui inclut les femmes. Seulement voilà, l'Académie royale espagnole, chargée de préparer un rapport sur le sujet, est loin d'être convaincue. Son directeur, Dario Villanueva, a rappelé la position de l'institution qui rejette l'écriture inclusive et défend au contraire l'économie de langage que suppose l'utilisation du masculin pour englober les hommes et les femmes sous un même terme. Il ne faut pas, dit-il, dans une interview à El País, confondre la grammaire et le machisme. Plus radical, le célèbre écrivain et académicien Arturo Pérez Reverte a menacé de quitter l'Académie si cette dernière accepte le langage inclusif. Le rapport n'est pas prévu avant octobre, mais la polémique est déjà présente. Reste à savoir si le gouvernement aura la capacité de faire adopter une réforme constitutionnelle qui nécessite une majorité des deux tiers, un défi pour un gouvernement en minorité qui peine à faire voter ses lois ordinaires.
Le ciel de demain sera moins orageux que celui d'aujourd'hui et même ensoleillé sur une grande partie du pays, malgré quelques pluies dans l'après-midi sur l'Alsace, les Vosges et le Jura. Les températures de demain matin seront comprises entre 17 et 29 degrés. Ce journal a été préparé avec Annie Brault. Il a été réalisé par Inès Debrune.